attention,
manipulation génétique,
attention,
manipulation génétique.
Bonsoir. Écoutez, ça fait plaisir d'être là avec vous. Alors évidemment, nous, on est un peu frustrés parce que on va repartir juste après. Parce qu'il faut qu'on prépare le procès de demain. Donc là, on est au moins quatre déjà ici qui sont présents sur la scène, qui vont faire partie de ces neuf qui vont être devant le tribunal demain. Ça va être un procès, pas de ces neuf personnes, mais ça va être un procès de l'État français qui a laissé faire des OGM dans les champs. Ça va être un procès de la justice qui n'a pris que 9 personnes alors qu'il y avait plus de 1000 personnes qui ont fait cette action. Ça va être en fait un procès aussi de l'Union européenne qui refuse la démocratie et qui, malgré les votes majoritaires du Parlement, met en place des directives qui n'ont rien à voir avec ce que veulent les citoyens. Donc pour nous, demain, ça va être un procès offensif. Ça ne va pas du tout être, non, on va pas du tout être là pour se défendre, pour s'excuser devant la justice, mais au contraire pour attaquer. Et ce que je vais dire demain à la magistrate, à la présidente du tribunal, c'est qu'elle n'a que deux solutions dans ce procès. Ou elle nous relaxe tous les neuf, ou elle nous met alors la peine maximum qui peut être de 5 ans. Voilà la situation dans laquelle on est. C'est pour ça qu'on va continuer. En fait, demain, ils vont dire la même chose. Donc pour nous, on sait qu'on risque la peine de prison pour ces actions, mais demain, on est prêt à recommencer, on sait qu'on sera encore plus nombreux. La première fois, quand on a mené les actions, on était quelques centaines. On a été plus de 1500 ici en Haute-Garonne ce mois de juillet. Aujourd'hui, il y a plus de 4000 faucheurs qui se sont inscrits pour continuer les actions. Donc ces actions, on va les mener partout. On va les mener dans les champs, on va les mener dans les supermarchés pour virer les OGM des supermarchés. Et chacun doit agir, chacun ici pour construire un monde plus juste et plus solidaire sans OGM. Merci.
Voilà, ça c'était hier soir, c'était à Toulouse. Et ce matin, vous le savez, c'est ouvert à Toulouse. Le procès des 9 faucheurs volontaire devant le tribunal correctionnel. Parmi ces faucheurs, José Bové, que vous venez d'entendre, Noël Mamère, il y avait des élus, il y avait des syndicalistes, et les faucheurs volontaires, eh ben, font parler d'eux depuis quelque temps, eux qui luttent contre les OGM par des arrachages, et là, il est question d'un arrachage qui a eu lieu à Mainville, en Haute-Garonne, le 25 juillet dernier. 9 qui comparaissent, sauf qu'il y en a 250 autres qui demandent à comparaître et qui demandent un procès collectif, décidé qu'ils sont à assumer publiquement leurs actes qui, pour eux, à leurs yeux, procèdent de la désobéissance civique. Alors, évidemment, c'est une démarche très rare, et avec ce procès, les faucheurs veulent rouvrir le débat sur les OGM. Bové vient d'en parler. Ils essayent d'en faire le procès de l'État français, le procès de l'Union européenne qui ne relaie pas et ne représente pas ce que veulent les citoyens européen. Le procès s'est ouvert ce matin, sans incident en particulier, et voilà qu'à la fin de la matinée, la présidente du tribunal a en effet estimé que la demande de la défense était recevable et qu'en effet, un procès équitable exigeait que l'ensemble des co-auteurs du délit soient entendus. Alors, eh ben, triomphe des faucheurs, 9 plus 250, 259 faucheurs à juger. Le parquet a fait appel de la décision du tribunal et finalement, il y a quelques instants, le procès a été renvoyé au 24 janvier prochain. Alors évidemment, c'est une rude journée pour tout le monde, pour la justice de notre beau pays, et c'est une belle journée pour ces faucheurs volontaires et ces militants qui se mobilisent depuis un certain temps dans leur lutte contre les OGM. Alors on a en ligne José Bové, j'espère au moins, et on a en ligne aussi, j'espère au moins, François Roux, qui est l'avocat des faucheurs. Est-ce que François Roux est là ? Allô ?
Je te passe François, c'est José à l'appareil, je te passe François de suite.
D'accord. Petit standardiste.
Oui, bonsoir.
Allô, François Roux ?
Oui, bonsoir.
Alors François Roux, vous êtes l'avocat des faucheurs.
Un des avocats, oui, nous étions en collectif, oui.
Un des quatre avocats, c'est ça ?
Oui.
Voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui en quelques mots ?
Ben, c'est qu'on se montait à ce que l'ensemble des personnes qui ont participé à la manifestation de juillet puisse être également.
La ligne est mauvaise, hein. Allô? Allô, allô?
Oui?
Allô, oui, la ligne est mauvaise.
La ligne est mauvaise, pardon.
Allô? C'est mieux, oui, là? Oui. C'est mieux?
François, oui, pour nous, c'est bien.
Oui, mais pas pour nous.
Ah, désolé. Désolé.
On recommence? Oui, François Roux, oui.
Oui, moi je vous entends très bien.
Très bien, bon, alors c'est parfait, mais nous on voudrait bien vous entendre un petit peu.
Est-ce que vous m'entendez?
C'est bien, là.
Oui? Ça va comme ça?
Parfait.
Bon. Donc je disais que ce matin, lors du procès, nous avons demandé à ce que les faucheurs volontaires deviennent en fait des comparants volontaires, pour reprendre le terme juridique, et que ceux qui avaient participé de manière ouverte à la manifestation, en revendiquant, en assumant leur acte, ceux-là même puissent également être présents au tribunal. Nous avons dit que nous n'accepterions pas un procès tronqué, où on aurait pris quelques personnes en otage, les 9 personnes au demeurant, tandis que c'était une action collective, une action de groupe, on peut même dire une action de tout un mouvement social. Et l'enjeu aujourd'hui, c'était de faire reconnaître cette action collective par le tribunal.
Mmh.
Pour nous, nous considérons que c'est une journée quasiment historique pour les actions de désobéissance civique non violente, puisque effectivement, le tribunal a considéré que le procureur de la République avait eu tort de convoquer seulement 9 personnes, et le tribunal a accueilli la demande de 250 personnes qui souhaitaient être également présentes à ce procès. C'est une nouveauté totale dans le droit français et qui, à notre sens, est une ouverture très importante pour l'ensemble du mouvement social, du moins lorsque l'on utilise les méthodes d'action non violente par la désobéissance civique. Parce que effectivement, à ce moment-là, les gens qui sont présents à ces actions revendiquent leur acte et revendiquent de pouvoir s'en expliquer devant la justice.
Alors,
ce
François,
qui ne les empêche pas après de demander la relaxe.
Est-ce que ça veut dire que les 259 vont comparaître les uns après les autres ou collectivement ?
Alors, ça, très clairement, le tribunal, dans sa décision, confirme que toutes ces personnes vont comparaître toutes ensemble. Et c'est là le grand succès pour nous. Ça veut dire très clairement que quand il y a des actions comme celle-là, désormais, la justice va devoir prendre ses dispositions pour poursuivre ou tout le monde ou personne.
Alors pourquoi pas plus de 250 ? Parce qu'il y avait 1000 personnes dans cette manifestation.
Oui, tout à fait. Alors là, il y a une toute petite subtilité, pardon, à savoir que comme tout le monde ne pouvait pas être là aujourd'hui, nous avions dit au tribunal que nous représentions les 250 personnes qui étaient présentes. Mais évidemment, il y en avait plus que ça. Mais bon, tout le monde ne pouvait pas se déplacer aujourd'hui. Ce sont celles qui étaient présentes aujourd'hui à Toulouse, qui étaient soit dans la salle, soit dehors, qui attendaient, qui étaient là pour dire au tribunal, nous sommes présents. Et nous sommes d'accord, plus que ça, nous demandons à comparaître volontairement. Je trouve qu'il y a un clin d'œil du droit. On était donc dans les faucheurs volontaires et on passe comparant volontaire devant la justice. Je trouve ça très intéressant.
François, est-ce qu'il y a des précédents ?
Il n'y a, à notre connaissance, aucun précédent dans le droit. Je crois que c'est le propre de l'action non violente de désobéissance civique. Parce que ce sont des gens qui assument leur action, qui la revendiquent, et qui l'amènent en toute transparence à visage découvert, et qui vont jusqu'au bout en disant « Mais maintenant, nous voulons aussi aller au procès ». C'est tout à fait le type d'action que menait à l'époque Gandhi en Inde. Tout à fait ça.
Mais je crois me rappeler qu'au moment de la lutte des femmes pour l'avortement, enfin pour le droit à l'avortement, il y avait eu une démarche analogue.
Alors, très exactement, vous avez tout à fait raison, c'était le même type de démarche, il y avait eu le fameux manifeste des 343 salopes qui avait dit « Mais nous aussi, on a avorté, et nous aussi, on veut être inculpé ». Mais par contre, elle s'était arrêtée à une déclaration d'intention très importante à ce moment-là. Nous, nous avons souhaité aller plus loin que la déclaration d'intention et nous avons dit, non seulement nous demandons publiquement, disaient les comparants volontaires, non seulement nous demandons publiquement à être présents au procès, mais nous déposons par l'intermédiaire de nos avocats, nous déposons des conclusions devant le tribunal. Et ce sont ces conclusions que le tribunal a accueillies concrètement. C'est-à-dire que le tribunal a dit et jugé aujourd'hui, eh bien, nos tribunaux, nous sommes d'accord pour considérer que toutes ces personnes étaient bien présentes, qu'elles sont des co-auteurs et des complices, et qu'elles ont le droit d'être entendues dans ce procès.
Mais alors, rien
c'est là qu'est la grande victoire.
Rien n'interdit au tribunal de condamner les 259.
Mais bien sûr, ça fait partie de l'action. On assume les militants de l'action civique non violente acceptent et assument le fait d'être peut-être un jour condamnés. Mais en même temps, ça nous empêchera pas de plaider sur le fond la relaxe, puisque nous avons aussi d'autres arguments qui aujourd'hui n'ont pas été mis en avant, puisque nous étions seulement sur ce terrain-là. Mais lorsque le procès va pouvoir se poursuivre avec les 259 personnes, il est évident que nous avons des arguments de fond, notamment des arguments concernant l'illégalité des essais qui étaient menés, et que nous demanderons la relaxe pour l'ensemble des comparants.
Alors, est-ce que je peux avoir José Bové? Merci François Roux.
Merci,
à bientôt.
Je pars, au revoir.
Allô?
Allô?
Oui, José?
Oui.
Oui, alors t'es content, évidemment.
Ah, je suis plus que content. Je pense que c'est vraiment une grande journée pour tous ceux qui luttent en France.
Mais là, on écoutait tes déclarations d'hier soir. T'étais un peu parti, là. C'était le procès de l'État français, le procès de l'Union européenne. C'était le procès de la planète entière. C'est quand même... Est-ce que on en est là aujourd'hui, vraiment?
Je crois qu'aujourd'hui, on est effectivement... on a marqué d'abord... une date très importante pour le mouvement social, c'est ce que François Roux disait, parce que les choses ont changé et on reconnaît à la fois le caractère collectif d'une action et le fait que les gens l'assument individuellement, mais bien évidemment c'est le point de départ, parce que si ce procès a lieu, ça va obliger la justice à convoquer donc plus de 250 personnes et à organiser les débats de manière tout à fait publique. Et là, à l'occasion de ce débat public, eh bien nous allons effectivement remettre en cause la commission de Bruxelles qui n'a absolument pas suivi l'Assemblée européenne qui à plusieurs reprises a voté majoritairement contre les OGM sur la responsabilité des entreprises qui n'étaient pas assurées pour les essais qui avaient lieu en plein champ, etc., etc. La commission de Bruxelles n'a pas fait ce travail. Ensuite, l'État français, eh bien lui, on va l'attaquer dans la mesure où il y a eu des directives européennes qui ont été prises, que l'État français n'a absolument pas traduit dans son droit national ces directives, et ce qui fait que les essais qui se sont déroulés pendant l'année 2003 sont tous considérés comme illégaux, puisqu'ils ont été faits à partir de textes de droit qui sont antérieurs aux directives européennes. Et d'ailleurs, la France a même été condamnée puisqu'elle n'avait pas traduit ces directives dans le droit national. Donc là, on a des arguments très importants en termes de droit européen et de droit national pour attaquer les essais, pour dire que ces excès sont illégaux. Mais ensuite, bien sûr, cela ne suffira pas et nous allons attaquer à la fois sur le fondement même des OGM, puisque de plus en plus de scientifiques reconnaissent aujourd'hui que ces OGM sont des manipulations qui ne sont absolument pas sûres, qu'il y a aujourd'hui une incapacité du milieu scientifique à savoir comment ces OGM évoluent. Là, différents scientifiques vont venir témoigner et vont venir prêter main forte aux faucheurs pour expliquer qu'aujourd'hui nous sommes dans les balbutiements des connaissances sur le vivant. Tout ça, ce sont des arguments importants. Aminata Traoré aussi, bien sûr, était ici avec nous. Elle voulait témoigner et elle n'a pas pu le faire devant le tribunal, mais elle l'a fait dans la rue, devant l'ensemble des militants qui étaient réunis. Et Aminata a eu des paroles très fortes sur le fait de dire que ce qui se passait aujourd'hui à Toulouse était pour les paysans, pour les populations africaines, quelque chose de capital. Eux qui commencent à résister contre les OGM, et son pays vient de prendre la décision, donc le Mali, d'interdire pour l'instant les OGM. Donc on voit que ce mouvement est en train de s'élargir, de se développer, et pour tous ceux qui luttent aujourd'hui sur cette question des OGM, eh bien la journée de Toulouse est vraiment une journée historique.
Alors, je reste un petit peu sur Aminata Traoré et sur la décision du Mali, parce que l'un des grands arguments avancés concernant les OGM, pour les pro-OGM, c'est de dire que les OGM aide les pays pauvres, aide les pays en voie de développement.
Alors justement, ça fait partie de l'intox qui est avancé par les grandes multinationales comme Monsanto ou Pionier. Aujourd'hui, tout le monde sait que c'est un argument qui ne tient pas la route dans la mesure où ceux qui meurent de faim aujourd'hui dans le monde, les 850 millions de personnes qui meurent de faim dans le monde, 60% de ces personnes sont des paysans et elles sont surtout victimes aujourd'hui du dumping des pays riches sur ces pays qui sont aujourd'hui organisés dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. Et il suffit de se souvenir de la grande campagne qui a été lancée par beaucoup d'ONG en France contre les exportations d'ailes de poulet ou de croupions de poulet qui sont en train de casser l'ensemble de l'élevage avicole d'Afrique de l'Ouest. Donc aujourd'hui, la question de la faim dans le monde, c'est d'abord un problème économique, c'est un problème de justice, permettre aux pays du Sud de se protéger contre les importations qui viennent du Nord à des prix défiant toute concurrence à cause des subventions aux exportations qui sont accordées à ces produits. Et en même temps, quand on est sérieux et qu'on regarde réellement ce que sont les OGM aujourd'hui en agriculture dans le monde, eh bien on sait que plus de 99% de ces OGM sont des OGM qui sont soit résistants à un herbicide, soit des plantes transformées en insecticides qui sont donc liées à une agriculture industrielle qui à 80% est faite pour nourrir les élevages industriels, porcs, volailles ou autres. Donc aujourd'hui les OGM sont faits pour permettre à des firmes de contrôler l'ensemble du marché des semences et continuer à développer une agriculture industrielle qui n'a absolument rien à voir avec les besoins des pays du Sud.
Ok, merci José. Je suppose que ça va être la fête ce soir à Toulouse.
Ah, ce soir, c'est la fête. Là, tu vois, on est déjà tous attablés avec l'ensemble des avocats. On est en train de fêter cette grande journée, qui est une journée importante pour les faucheurs, mais pas simplement parce que on disait tout à l'heure que pour les gens qui luttent pour le droit au logement, pour qui soutiennent les sans-papiers, pour les syndicalistes qui occupent une usine ou qui participent à un rassemblement, eh bien, aujourd'hui, des nouvelles armes sont à disposition de l'ensemble des mouvements. C'est une avancée du droit et c'est aussi une gifle très importante à Per Ben, le ministre de la Justice, qui a essayé d'instrumentaliser la justice pour faire passer sa logique de répression du mouvement social. Donc aujourd'hui, c'est une victoire contre ce gouvernement qui a essayé d'imposer la criminalisation du mouvement social. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ici à Toulouse, les syndicalistes, les associatifs, les citoyens, eh bien, faites cela vraiment et se rendent compte que la justice peut être du côté des citoyens quand elle est indépendante. Et pour nous, aujourd'hui, cela montre que la démocratie est toujours en marche et qu'on est dans une démocratie toujours en mouvement.
Merci, José Beauvais. À bientôt.
À bientôt.
Juste après l'émission de vendredi dernier, j'entends la voix de Pinault. Tant qu'ils sont otages, nous le sommes aussi. Ça devient n'importe quoi, ces flashs. Quand sont les comédiens? Ça passe encore parce que c'est leur habitude. Les comédiens sont toujours remplis de bons sentiments. Ils sont gentils, les comédiens. Dès qu'il faut être solidaire avec les grandes causes, ils sont là. Ça leur coûte pas cher et comme ils sont comédiens, ça fait sincère. Mais Pinault, alors faut arrêter. Vite qu'on les libère les otages avant que Dassault, Lagardère ou Lelay fassent le spot. On n'est pas tous otages, comme on n'était pas tous américains après le 11 septembre. Cette manie pour tous ceux qui sont dans le pire des conforts de vouloir s'identifier aux victimes, à un moment, ça devient indécent. C'était Pascal de Lyon.
Je suis une Française connue seulement d'un tout petit nombre d'amis. Aujourd'hui, vendredi 5 novembre 2004, c'est le 78e jour de captivité en Irak pour nos concitoyens Christian Chesneau, Georges Malbruno et pour leur compagnon de détention Mohamed Al-Jouni. Aussi longtemps qu'ils sont otages, nous le sommes aussi. Ne les oublions pas.
Bonjour Daniel, bravo pour les émissions sur Montpellier. Je suis de Montpellier et c'est tout est vrai, c'est magnifique. Et puis j'espère qu'Arafat ne va pas se réveiller parce que si c'est pour voir que Georges Bush est encore là pour 4 ans, il vaut mieux qu'il reste là où il est, le pauvre. C'est Christelle de Montpellier.
Oui, bonjour, je m'appelle Sylvette, je suis dans l'Aude, mais je suis originaire de Montpellier. Je vous appelle parce que je vous ai entendu beaucoup dire Montpellier l'autre jour dans votre émission. Je voulais vous dire qu'on ne dit pas une peleu et que quand il y a un E devant deux L, on dit E. Alors c'est la faute commune à tous, hein. Montpellier, c'est la prononciation réelle, et tout le monde dit Montpellier, sauf les gens qui y vivent et qui en ont l'habitude. Voilà, ce serait bien qu'un jour on appelle Montpellier par son vrai nom. En tout cas, continuez vos émissions. Bonne journée. Au revoir.
David, Montpellier. J'ai entendu la dernière fois l'émission sur le petit bar. Bon, bien que ce soit scandaleux et qu'on je trouve qu'il faudrait quand même se retourner plus contre les propriétaires, c'est pas là-dessus que je voulais parler. C'est surtout sur le fait qu'une personne a dit qu'à la TAM, on n'embauchait pas parce qu'ils étaient du quartier du petit bar, ce qui est totalement faux, puisque je suis moi-même, je suis syndicaliste CGT à la TAM. Et je peux dire que là-dessus, c'est totalement faux, puisque ce sont des tests d'aptitude à la conduite du bus et du tram qui font la sélection et n'ont pas ni l'adresse, ni la couleur, ni le race, ni la race, ni le sexe. Voilà, ça, je pensais qu'il fallait le préciser. Et c'est une chose sur laquelle nous sommes attentifs et sur laquelle nous nous battons tout le temps. Mais la TAM est peut-être une société où il n'y a pas ce genre de problème.
Oui, bonjour Daniel, bonjour toute l'équipe, merci pour vos émissions. Il y a juste un petit problème, c'est pour ça que je vous appelle, c'est parce que quand tu parles, Daniel, en début d'émission, on entend un espèce de chuchotis derrière toi, c'est très très désagréable, et est-ce que c'est pas possible à la technique de l'enlever, parce que quand tu parles pour présenter, pour lancer ton sujet, il y a ce bruit de fond qui vient en parasite. Voilà, merci, salut et continuez.
Ah voilà le bruit de fond qui vient en paradis. Ça fait des années, ça fait des années en effet que sous ma voix, entre les deux éléments des répondeurs, de vos messages, et eh ben il y a ces voix qui murmurent et qui figurent, cher ami auditeur, le murmure, la rumeur, le répondeur, etc. Alors on est tout à fait désolé que ça vous agace. Ça nous amuse toujours, évidemment, quand on s'applique tellement à faire des sons, à faire des montages, et on a des meilleurs techniciens du monde, et que ça froisse comme ça les auditeurs, c'est toujours amusant. En tout cas, merci pour vos messages. Rappelez le numéro du répondeur 056 40 37 37. Aujourd'hui, on va continuer, hein, José Bové et François Roux, la triomphe, mais on va essayer de comprendre mieux et plus en profondeur cette affaire d'OGM. C'est pas une histoire si simple que ça. D'autant plus qu'évidemment, nous sommes entre les mains des scientifiques, des spécialistes et de leur autorité, en face de laquelle, eh ben, on a quand même assez peu de défense. Comment donner tort à quelqu'un qui arrive du haut de ses diplômes, du haut de sa spécialité, du haut de sa supériorité scientifique? On va essayer de réfléchir autour de tout ça, de s'informer tout simplement avec des opinions des uns et des autres, que nous avons rencontré hier avec Antoine Chao à Toulouse avec ses faucheurs. Auparavant, d'autres messages sur le répondeur de la base, si j'y suis. 01 56 40 37 37.
Salut Daniel. Aujourd'hui à Poitiers, lundi 8 novembre, aura lieu à la MJC Aliénor d'Aquitaine une conférence consacrée à l'internement des Tziganes. Lundi 8 novembre, 20h30, MJC Aliénor d'Aquitaine. Salut, venez nombreux.
Voilà, j'entends beaucoup parler de l'amitié franco-allemande, qu'il va falloir remettre l'allemand au goût du jour pour la prendre dans les lycées. Eh bien, Hélène de Marseille veut vous dire que le Goethe-Institut de Marseille a été fermé il y a 6 ans. Contre vents et marées, on a lutté et nous venons de gagner le procès en appel. Il y a des fois des justices et on est vachement contents. Merci le Goethe. Et merci Daniel, à bientôt.
Bonjour. Alors, dernière petite nouvelle. Si vous avez quelqu'un que vous connaissez, ou enfin, donc, hospitalisé en France, et que vous voulez avoir de ses nouvelles, le plus simple, c'est de lire la presse israélienne.
Oui, bonjour. Francis de Saint-Lô, je vous appelle pour vous faire part d'une manifestation qui aura lieu mardi à 18h à Saint-Lô, place de la mairie, pour soutenir Sergueï Cohu, un réfugié moldave à qui on refuse son titre de séjour. C'est une personne de 37 ans qui, s'il retourne dans son pays, risque d'être mis en prison immédiatement. Il a une femme et une fille de 9 ans. Donc, pour les aider, venez tous à Saint-Lô, mardi à 18h, place de la mairie. Merci.
Voilà, alors amis auditeurs, ça figure, ce que vous entendez, les bruits de fond là que vous entendez, ça représente le fauchage, ça représente les faucheurs. Il y a un tel appauvrissement du paysage sonore radiophonique, effectivement, il va falloir tout réapprendre un de ces jours, une fois que tout ça aura disparu. Donc, les faucheurs volontaires, eh bien, ils étaient à Mainville, en Haute-Garonne, le 25 juillet. Ils étaient à Marsat, dans le Puy-de-Dôme. Ils étaient à Pétivier, dans le Loiret. Et il y a eu des accrochages assez sévères, et même très, très sévères, à Solomiac, le 5 septembre, et à Valdivienne, dans la Vienne, le 25 septembre. Ça devient de plus en plus rugueux entre ces faucheurs volontaires, c'est-à-dire ceux qui militent contre les OGM, qui sont inquiets de cette avancée des OGM, de ces OGM qu'on nous impose contre vents et marées de l'opinion, à plus de 70%, si l'on en croit les sondages et les sondages répété, les Français sont hostiles aux OGM et c'est à peu près le même pourcentage pour le reste de notre Europe. Donc on essaye actuellement, et qui et par quel moyen, de nous imposer ces OGM. C'est quand même une situation assez extraordinaire de voir et d'entendre des gens comme José Bové, Noël Mamère, qu'on va retrouver, se battre pour la majorité des Français, pour une large majorité, on pourrait dire, silencieuse, et qui se trouve face à une minorité défendue par des bataillons de CRS. Hein. On a vu, d'après les informations qu'on vient de donner, et les réactions qu'on a eues de l'avocat, d'un des avocats des faucheurs et de José Bové, que le tribunal accepte de juger non plus 9 faucheurs volontaires inculpés, mais 259, donc le 24 janvier prochain. On va essayer de comprendre un peu mieux comment ça fonctionne, comment ça se vit, quels sont les risques, quels sont les avantages et les désavantages de ces OGM, qu'est-ce que ça peut faire dans notre vie quotidienne, pourquoi est-ce que nous n'avons pas de moratoire face aux risques encourus, etc. On va commencer avec François Simon, qui est un élu de Toulouse et qui fait partie, alors qui faisait, il faut dire maintenant déjà l'imparfait, faisait partie des 9 inculpés faucheurs volontaires.
Attention, attention, manipulation génétique.
François Simon, conseiller municipal de Toulouse, médecin généraliste et membre de l'Alternative Midi-Pyrénées.
Et vous êtes poursuivi?
Je fais partie des 9 personnes poursuivies par rapport au fauchage de ma ville.
Comment est-ce que vous avez quelqu'un d'aussi bien que vous, médecin, élu, peut être poursuivi?
Mais justement, parce que je suis médecin et que je suis élu, j'ai pensé qu'à un moment donné, il faut savoir résister, qu'il faut savoir dire non, qu'il faut savoir s'engager.
Qu'est-ce qui vous fait si peur dans les OGM?
Sur plusieurs plans, c'est une réflexion sur le long terme. En tant que médecin, j'ai trop vu ce que c'était que de ne pas respecter le principe de précaution. Pendant mes études, j'ai appris les dangers de l'amiante. Depuis 1890, on en parlait. Ça n'a été interdit qu'en 1997. Chaque année, des gens meurent de l'amiante aujourd'hui. On n'a jamais écouté les gens qui en parlaient. Sur le problème du sang contaminé, on m'avait expliqué pendant mes études, ou un peu après mes études, que si on chauffait le sang, on détruisait les virus. On n'a pas écouté les gens qui le disaient et on voit la catastrophe aujourd'hui. Troisième exemple, sur l'histoire de la vache folle, quand j'étais étudiant, on m'avait expliqué que de donner des carcasses de moutons pouvait contaminer les bovidés, donc les vaches, et donc potentiellement, en passant les barrières comme ça animales, arriver jusqu'à l'homme. Ça avait été dit à Maison Alfort, j'étais encore étudiant en Bobigny, c'est arrivé. Aujourd'hui, on a des signes sur les OGM qui montrent bien qu'il y a des dangers sur la santé, entre autres le professeur Poutsai qui a été interdit de professeur en Angleterre par rapport à des expériences qu'il avait menées. Donc on sait qu'il y a du danger, on passe au-dessus du danger. Et si l'obscurantisme il existe aujourd'hui, ben c'est peut-être un obscurantisme scientifique. Et moi, en tant que médecin, par rapport à ma déontologie, par rapport à mon devoir de médecin, je dois me révolter face à des décisions pareilles.
Obscurantisme scientifique.
Ben oui.
Donc solution, moratoire.
Ben, la solution, c'est moratoire, débat public, travail sur l'innocuité. Et tant que la preuve de l'innocuité n'a pas été faite, mais comment on peut accepter que quelqu'un qui a une éthique puisse se permettre comme ça de promouvoir des produits potentiellement dangereux.
Vous êtes dans le combat politique, vous êtes un élu. Comment vous expliquez qu'un gouvernement, face à une opinion majoritairement hostile aux OGM, défend quand même les OGM en envoyant ces CRS vous poursuivre dans les champs?
Je crois que c'est des logiques qui s'affrontent. Il y a des logiques aujourd'hui qui sont des logiques d'économie, de productivité, de marchandisation, qui sont des logiques qui sont dominantes aujourd'hui. Et les pouvoirs, les gouvernants aujourd'hui vont dans ce sens-là. Et je crois qu'ils oublient que le rôle d'un élu, au préalable, c'est de défendre les gens qui les ont élus, donc les électeurs, les citoyens, le peuple, dans le sens noble du terme. Et je pense qu'ils font une erreur grave par rapport au danger qu'ils laissent porter sur la population.
Alors, vous êtes inculpé. Quelles sont les réactions autour de vous? Vos patients, les gens en général, est-ce que c'est supportable d'être inculpé dans une affaire comme ça? Vous êtes un héros ou le soupçon s'installe?
Non, pas du tout. À titre personnel, c'est pas facile de franchir cette barrière qui fait qu'on peut se retrouver dans la justice. Donc c'est un choix qui n'est pas simple. En revanche, je suis serein et ce qui me paraît extrêmement important, et je pense que les pouvoirs publics devraient l'entendre, c'est que nous sommes totalement soutenus par la population.
Stéphane Hessel, ambassadeur de France, ancien grand résistant, aujourd'hui 87 ans, et qui vient dire en substance au tribunal, moi-même qui suis ancien résistant, je considère que les prévenus sont les résistants modernes à ce monde économique, etc. Voilà le thème de son témoignage.
Qu'est-ce que vous faites là, Noël Mamère?
Je participe à l'Assemblée Générale des Faucheurs Volontaires. Je suis très très content de voir qu'il y a autant de monde. Ce qui est bien, c'est que ces faucheurs volontaires, c'est pas simplement des militants politiques ou des militants
d'abord, syndicaux. D'abord, soyons
pédagogues. Les faucheurs volontaires, c'est un collectif qui a été initié sur le Larzac l'année dernière par José Beauvais et Jean-Baptiste Liboubon, qui est le responsable d'une communauté qui s'appelle la communauté de l'Arche, qui est héritière de l'Anza del Vasto. Et l'idée, c'était de mettre en œuvre le principe de la désobéissance civique, tel qu'il a été imaginé en 1846 par Henri David Thoreau, un Américain. Et donc d'agir à visage découvert, collectivement, au nom de sa propre conscience, en étant responsable individuellement, pour alerter l'opinion publique lorsque la démocratie est incapable de discuter, de débattre d'un choix qui engage l'avenir de la société. Et on peut pas nier que les OGM, ça engage l'avenir de notre société à travers la remise en cause de la biodiversité. Par exemple, la dissémination des OGM sur des cultures biologiques ou des appellations d'origine contrôlée, bah c'est la fin de la culture biologique ou la fin des AOC, comme ça existe déjà au Canada, où on ne peut plus cultiver de colza biologique, puisqu'il a été complètement contaminé. C'est aussi une atteinte à l'environnement, et ça peut être une atteinte à la santé publique, mais on n'a pas encore le recul pour ça. Donc c'est trois raisons suffisantes pour alerter l'opinion et pour dire il faut un débat public. Et s'il n'y a pas de débat public, alors on agit. C'est ce que nous avons fait. Donc aujourd'hui, ces faucheurs volontaires, ils sont composés de militants syndicaux, principalement les militants de la Confédération paysanne, de militants politiques, des membres des Verts, du Parti communiste pour quelques-uns, de la LCR et de quelques-uns du PS d'ailleurs, rares mais quand même, et puis d'associations et aussi de citoyens qui appartiennent à aucune de ces qui n'appartiennent à aucune de ces catégories et qui se sentent concernés par cette question pour leurs enfants et pour eux-mêmes. Donc ce que je trouve très bien, c'est le caractère transversal des faucheurs volontaires. Quand on parle d'Europe citoyenne, quand on parle de responsabilité du citoyen, là on a un très bon exemple de ce que peut être une organisation qui n'est instrumentalisée par aucun parti politique et qui prend sa force du fait qu'elle est représentative de la diversité sociale du pays.
Mais ce qui est étonnant quand même, là, l'opinion française et européenne est contre les OGM. C'est-à-dire qu'on est en train d'imposer, on essaye d'imposer quelque chose contre une opinion largement hostile.
Absolument. C'est ce qui prouve que la démocratie peut avoir ses limites.
Là, vous n'êtes pas actuellement une minorité qui essaye de faire valoir une cause minoritaire, ce qui n'est pas déshonorant, ce qui est tout à fait inscrit dans la démocratie, dans le fait démocratique. Mais là, vous êtes du côté de la majorité. Actuellement, la France silencieuse, c'est vous.
Oui, on peut dire que la France silencieuse, c'est nous. Oui, bon, on est un peu braillard pour des silencieux, il faut bien le dire. Mais si on n'était pas là, la France silencieuse ne serait pas représentée. Elle n'aurait
la
pas
partie braillarde de la France silencieuse.
Voilà, la partie braillarde de la France silencieuse. Excellente image. Mais la réalité, c'est qu'effectivement, c'est là où on touche les limites de la démocratie quand on laisse trop de pouvoir aux experts et trop de pouvoir au marché. Et quand le marché et les experts se mutualisent, ça donne des sociétés quasiment autoritaires. Parce que ce que sont en train de faire les grandes compagnies transnationales avec les OGM, c'est une tentative d'accaparement de l'ensemble de l'agriculture. C'est-à-dire, c'est une initiative totalement totalitaire. Qui de plus, comme vous l'avez vu quand on est allé dans le Poitou ou quand on est allé dans le Gers, C'est une militarisation de l'agriculture où vous avez quasiment un gendarme mobile par pied de maïs. Est-ce que c'est ça qu'on veut proposer comme avenir, comme société à nos enfants? Donc c'est contre ça qu'on se bat. Et si ils militarisent l'agriculture pour la protéger, c'est bien qu'elle est contestée. Donc nous avons le sentiment non seulement de ne pas être minoritaire, de ne pas être des délinquants, mais d'être représentant d'une majorité de Français et d'Européens et d'être là pour construire plus de droits.
Quelle est la conséquence des OGM dans la vie quotidienne?
Ça concerne chacun parce que, par exemple, la Bretagne est une des premières régions agricoles de France qui fait beaucoup d'agriculture hors sol que nous dénonçons. Et le bétail est nourri avec du soja. Et ce soja, il est transgénique. Donc on ne connaît pas très bien les conséquences. Aujourd'hui, on n'a pas évalué les conséquences de ce soja transgénique sur le métabolisme des animaux et sur la transmission à l'espèce humaine. Donc il y a effectivement un danger virtuel et on s'est lancé là-dedans sans avoir pris le soin d'évaluer les conséquences. Et c'est beaucoup plus dangereux que lorsqu'on s'est lancé dans la chimie avec les molécules qu'on a balancées dans l'environnement sans recul. On s'aperçoit aujourd'hui des dangers, mais on peut le réparer. Là, avec les OGM, c'est tout à fait différent parce que là, on agit sur le vivant. C'est-à-dire qu'on procède à des mutations qui sont irréversibles. Et c'est ça le vrai danger aussi, c'est ce qu'on appelle l'artificialisation du vivant. Donc voilà les conséquences. Mais le problème que nous rencontrons, c'est de le faire comprendre, parce que c'est totalement immatériel. Et donc, dans la mesure où les gens, vous savez bien comment c'est, il a fallu que l'on prenne conscience de la crise de l'agriculture, de l'élevage intensif avec la vache folle. Mais tant que les problèmes de vache folle n'étaient pas arrivés dans l'assiette des Français, ils s'en foutaient.
C'est ça, c'est pour ça que je posais la question.
Voilà, alors aujourd'hui, c'est ça qui est difficile, c'est qu'on se bat sur quelque chose d'immatériel. Vous voyez bien comment se comporte une grande partie des médias qui fonctionnent, qui sont complètement eux-mêmes conditionnés par les grands lobbies qui savent très très bien faire leur information et leur communication. Qui font pas de l'information, qui font de la communication. Et donc, on passe pour des délinquants, pour des 68 heures attardés, voilà. Alors qu'en fait, c'est nous qui agissons au nom du droit. Et c'est extrêmement difficile de le faire comprendre à ceux qui ne le voient pas, parce que c'est immatériel, l'importance du combat qu'on mène.
Qui défend les OGM, à part les multinationales, qui ont tout intérêt et qui font pression sur les politiques? Qui d'autre défend?
Les politiques. Beaucoup de politiques, beaucoup trop. Et vous savez, ça a un caractère totalement transversal.
Pour vous, ils sont tous sous influence?
Non. Je pense qu'il y a beaucoup de députés qui sont sous influence. Parce qu'ils ont des comment ils ont des dettes en quelque sorte politiques vis-à-vis de grands groupes, hein, parce que ils défendent l'emploi dans leur circonscription. Enfin, c'est toujours les trucs, c'est toujours la même rhétorique. Hein. Pourquoi le nucléaire? Si on a une centrale nucléaire, ça fait de la taxe professionnelle, ça fait des emplois, etc. On a bien vu ça à La Hague, et on voit ça avec l'EPR. Donc c'est une rhétorique très classique. Le problème, c'est qu'il y a aussi des députés de gauche comme de droite qui sont convaincus au nom de la science que les OGM sont nécessaires.
Oui, voilà. Alors ?
Ben ça, c'est le complexe scientiste. Ça veut dire qu'on a une classe politique qui, dans sa grande majorité, est complètement dans la croyance à la science, le productivisme, tout ce qui a été constitutif d'une certaine idéologie, d'ailleurs de gauche comme de droite. Et puis il y a au milieu de tout ça des nouveaux venus, les Verts, qui ont une autre culture, qui se sont construits dans la critique de la société industrielle, dans la critique du progrès, et qui apportent un point de vue différent.
C'est ça, c'est-à-dire que la caution scientifique fonctionne encore auprès des politiques, et pas seulement auprès des politiques, auprès de tout le monde.
Mais c'est ça le principal moteur, alors c'est beaucoup moins la corruption supposée.
Rien ne prouve que les scientifiques
lobby
ont raison.
Mais bien sûr que non.
Bien sûr que non.
Bien sûr que non. Est-ce que les scientifiques avaient raison sur l'amiante? Réponse non. C'est un bon exemple. Mais bien sûr que les scientifiques n'ont pas raison. C'est la théorie de la réfutation. La science est là pour être réfutée en permanence. C'est le doute de Montaigne, que sais-je. C'est ça qu'on doit se dire tout le temps. Et donc, la plupart des politiques qui défendent les OGM le font par une conviction scientiste. C'est ça le moteur idéologique.
J'ai ouï dire que notre avenir c'est des Berlusconi, des bouchers, des mines, des McDo, des industries, des dollars, des euros, des actions qu'on investit, des politiques au pourri qui pensent au nom du profit. J'ai ouï dire que notre présent c'est notre avenir, si c'est ça nos gouvernements, alors y'a plein de choses à dire. Ils sont dans la cour des grands qui va bientôt rétrécir, parce que devant y'a des gens qui veulent vivre et sourire. J'ai ouï de l'Ascar qui me fuit, l'Ascar qui me saoule. J'ai pas peur pour mon gosse, j'irai à leur sommet montrer le peuple et sa force. Attaque est un essai qui fait peur à vos négoces et qui pourrait bien ruiner vos espoirs et vos forces. J'ai pas peur pour mon gosse, je suis pas le seul en avoir fait au travers d'un monde féroce. Y'a pas d'ambiguïté, pas d'antilité, je veux pas laisser évoluer dans un tel merdier. J'ai une mauvaise nouvelle, c'est vous qui avez le nez dans vos poubelles. Et même s'il y a gêne, vous matraquez les rebelles. À notre envie de lutter, ils poussent des ailes. J'ai une mauvaise nouvelle, votre boursicotage tient avec des ficelles. Et quand ça va casser, on va être là pour regarder votre laisse écrasée d'un trait sur le pavé.
Y'a pas de son? Si, y'a du son. Oui, bon, bonjour à tous. On m'a demandé de préciser aux personnes qui rentraient qu'il était utile de s'inscrire. Je le rappelle à ceux que ça intéresse. Voilà.
L'ambiance est beaucoup réchauffée entre ce début hier de la réunion des faucheurs volontaires et aujourd'hui où ils sont très fiers et il y a de quoi d'ailleurs à la suite de la décision du tribunal donc de reporter l'audience au 24 janvier donc 2005 et ce sera plus 9 faucheurs volontaires qui comparaîtront, mais le tribunal en a décidé ainsi. 259 de ces faucheurs volontaires qui sont volontairement inculpés et qui ont demandé à être jugés et qui le seront donc en janvier prochain. On vient d'avoir la longue explication du professeur Noël Mamère qui a fait sa petite pub pour les Verts en passant, c'est normal, mais il nous a quand même pas mal éclairé sur les enjeux des OGM. Et bien évidemment que la question de la fabrication de l'opinion, du consentement sur les OGM passe par le prestige du scientifique. Dans ce domaine, l'opinion est tributaire de la science, de la confiance dans la conscience de la science. Hein? Dans ce domaine, le scientifique, on vient de le dire, avec son effet d'autorité, est un homme comme vous et moi, avec ses passions, sa subjectivité, ce qu'il croit croire, et voilà tout. Mais en face, qui est très têtu et très violent, et c'est évidemment le pouvoir du marché qui passe par les lobbies. Et ces lobbies sont très puissants, très têtus. Ils ont le temps, ils ont les moyens, ils ont l'argent, y compris les moyens de manipuler les scientifiques, de manipuler l'autorité, le prestige scientifique. Mais c'est pas le cas de tous les scientifiques. La preuve.
Est-ce que vous pouvez vous présenter?
Christian Bello. Je suis maître de conférence en génétique moléculaire à l'Université de Paris-Sud et je dirige un groupe de recherche à l'Institut de génétique et microbiologie sur le centre scientifique d'Orsay.
Alors voilà, ça c'est prestigieux. Là maintenant, on ne peut que vous croire. Je suppose que, étant donné que José est à côté de nous, vous allez nous dire que les OGM c'est mal, mais avec la même autorité, les mêmes titres prestigieux et ronflants, vos confrères nous disent que les OGM c'est bien.
Absolument. La différence peut-être avec mes confrères qui disent que les OGM c'est bien, c'est que moi je n'ai rien à gagner à être contre. Un certain nombre d'entre eux qui défendent les OGM, disons agroalimentaires, il est clair qu'ils ne sont pas tout à fait neutres, puisque un certain nombre sont liés donc par leur contrat de recherche à des firmes semencières. Par contre, il y a un certain nombre de chercheurs, je pense, qui sont contre simplement parce qu'ils ont la tête dans le guidon. Vous savez, les chercheurs, c'est des gens passionnés, mais qui souvent ne voient pas plus loin que le bout de leur éprouvette, et qui sont persuadés que tout ce qui sort d'un laboratoire de recherche est forcément bon parce que c'est le produit d'une activité de recherche.
La caution scientifique n'est pas toujours une garantie de la validité d'un produit. Je pense à la viande.
Absolument, et je pense que justement, on ne tire pas assez de leçons du passé. Et c'est ça qui est bien dommage. Vous savez, par exemple, j'ai assisté il n'y a pas longtemps à une conférence sur les maladies à prion, c'est la maladie de la vache folle, Creutzfeldt-Jakob, etc. Et je vous assure que si le même scientifique était venu il y a 20 ans nous faire la même conférence, mais en remplaçant le présent de l'indicatif par le conditionnel, on l'aurait enfermé en disant où est-ce qu'il a fait ses études, ce gars-là. Parce que les maladies à prion, ça bouleverse tous les dogmes de la biologie.
Aujourd'hui, dans le monde scientifique, par rapport aux OGM, les camps ressemblent à quoi? Il y a les neutres hésitants, il y a les pour et les contre.
Je pense qu'il y a effectivement ceux qui, en fait, prennent une position, mais qui croient tout savoir sur les OGM parce qu'ils savent ce qu'est un OGM sur le plan technique, mais qui ne se sont jamais intéressés aux dossiers confidentiels des OGM. Et quand je fais des conférences de vulgarisation sur les OGM et que j'ai dans l'assistance des chercheurs, bien souvent, ils viennent me voir à la fin pour me dire « mais on n'avait pas du tout pensé à ces aspects-là ». Donc ça, je pense que c'est la grande majorité. Puis bon, et ensuite, il y a ceux qui sont des chercheurs, mais qui sont aussi des citoyens responsables et qui se posent des questions vis-à-vis des recherches et des grandes orientations de recherche et des retombées que ça peut avoir sur l'ensemble de la société. Et puis, il y a ceux qui, bien sûr, comme je le disais, ont des intérêts personnels et qui ne s'en cachent pas, d'ailleurs.
Quelles sont ces retombées, justement, sur l'ensemble de la société?
Les retombées, je pense que bon, ça sort du débat scientifique, d'ailleurs. Les retombées, je pense que la vraie question sur les OGM, c'est de savoir quel type d'agriculture on veut. Donc ça concerne l'ensemble des citoyens, de savoir si on veut une culture encore plus industrialisée, au détriment d'une agriculture paysanne, si on veut une culture qui favorise les semences complètement standardisées, au détriment donc de la pluralité donc des semences, au détriment des cultures vivrières qui sont en fait les seules garantes notamment de l'autonomie alimentaire des peuples. Donc c'est un problème qui va jusque là, ça sort largement du domaine scientifique. C'est une décision politique, c'est un choix de société.
Concernant le tiers-monde, on dit les OGM c'est la solution pour les pays en développement.
Moi, je pense que ça, c'est une aberration. D'abord, les OGM, qui dit OGM, dit brevet. Je ne crois pas que les paysanneries pauvres du pays du Sud ont les moyens d'acheter, de payer les semences à chaque cycle de culture. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je pense que si on veut assurer une autonomie alimentaire pour les pays du Sud, la première chose, c'est de protéger leur culture vivrière de l'importation des produits alimentaires des pays du Nord. Et les OGM, bon, dans le sens contraire, les OGM, c'est, comme je le disais tout à l'heure, favoriser une agriculture industrielle. Et donc, ça va complètement à l'encontre de la protection et de l'autonomie alimentaire des pays du Sud.
On nous dit, oui, mais c'est un combat d'arrière-garde. Les OGM, il y en a déjà partout. Il y en a déjà dans les aliments, il y en a partout.
Oui, alors ça, c'est l'argument effectivement facile de dire, ben, finalement, puisqu'il y en a partout, c'est plus la peine de s'y opposer. Donc moi je rétorque que bah oui, si quelqu'un est en phase terminale du cancer, on peut l'emmener à Tchernobyl pour ses dernières vacances.
Mais c'est déjà aussi avancé que ça.
C'est avancé, ça dépend où. Effectivement, il y a 67 millions d'hectares cultivés sur la planète, mais ils sont concentrés essentiellement sur 5 pays, notamment les États-Unis et le Canada.
Voilà, merci à tous. Merci à Christian Bello, ce scientifique que vous venez d'entendre. Merci à François Simon, José Bové, François Roux et Noël Mamère. Toutes les informations concernant les faucheurs volontaires sont sur le site www.monde.fr. www.ogm-solidaire.org. Beaucoup de bouquins sur ce sujet. Par exemple, OGM, Ordre génétique mondial de Christian Fonce, F-O-N-S, Fonce, édition L'Esprit Frappeur. Plus d'informations sont à votre disposition sur le site de la BASI J'y suis, en allant sur franceinter.com. Technique aujourd'hui, Michel Thomas et Antoine Viossa. Réalisation Antoine Chao, Yann Chouquet, Pascal O, Pascariello et Christophe Imbert, c'est l'équipe de la BASI J'y suis. Le numéro du répondeur, c'est le 01 56 40 37 37. Après 1 minute 36 de pub, vous retrouverez Charivari avec Frédéric Bonneau. On se retrouve demain à 17h. Salut!